Ces voix que vous venez d'entendre chanter en chœur c'est Nitya Tou Erota, un chant grec traditionnel adossé aux premières paroles de la chanson La jeune fille aux cheveux blancs de la chanteuse Camille. Ces voix sont celles des Louves, le collectif et compagnie de théâtre féministe dont Cyrielle Rayet, comédienne et professeure de yoga, fait partie. Elle livre sur Radio Ucluc un peu de son énergie débordante, de ses pratiques du chant, de la scène et du yoga, qui influencent sa pensée et son travail collectif avec Louve.
Bonjour Cyrielle, nous sommes très heureux et heureuses de compter ta présence dans l'émission Faire Société, Pratique et Influence. Tu es comédienne, sortie de l'école du Théâtre National de Bretagne en 2018. Tu avais déjà intégré depuis plusieurs années le collectif Louve. Tu possèdes plusieurs cordes à ton arc puisque tu es interprète, chanteuse dans le cadre de vos spectacles, tu performes pour des artistes et tu es pratiquante et professeure d'Ashtanga Yoga. Tu t'intéresses par ailleurs à la lecture et à la symbolique des cartes du tarot. Toute une combinaison de pratiques et d'influences poreuses qui façonne ta personnalité artistique et ta singularité. Pour commencer, peux-tu nous raconter ce qui t'a amené sur ces différents chemins, de la scène, du chant, des cartes et du yoga?
Alors, le chemin de la scène, j'estime la date à mes 5 ans, parce que je me souviens dire à ma grand-mère que je voulais faire tous les métiers du monde. Et pour moi, tous les métiers du monde, c'est acteur. Donc j'ai l'impression que je suis née avec ce désir-là, mais que ça n'a pas vraiment de sens, puisque dans ma famille, personne n'était artiste. Alors mes parents m'ont beaucoup amené voir des spectacles, mais jamais de théâtre. Donc, pour le coup, le théâtre n'était pas du tout dans notre culture. On avait pu voir des concerts, même voir du cirque, tout ça, mais théâtre, non. Puis mon frère faisait du théâtre. Et je pense que par contre, mon père m'a vraiment éduquée avec des films d'auteurs. J'ai grandi notamment avec La Belle et la Bête de Cocteau, et ça, je pense, ça a changé ma vie. Et je pense que ce film-là a fait que j'avais envie d'être l'actrice dans le film. Donc ça, ce film-là, je regardais quand j'avais 5 ans. Pour les cartes, ça c'est vraiment intéressant. Je ne me suis jamais posé la question. Ça arrivait très tôt, hein, très tôt, puisque quand j'avais 16 ans déjà, je m'étais fait tirer les cartes, je sais. Mais on va dire que ça vient, je pense, de ma culture paysanne. Enfin, donc je viens de famille des deux côtés paysans. Et bizarrement, c'est très catholique, mais païen en même temps. C'est-à-dire que les guérisseurs ont une très, très grande importance dans nos familles. Donc je suis toujours née avec la phrase « Tiens, je vais aller voir le guérisseur ». Après, donc, quand j'ai eu 18 ans, je me suis fait tirer les cartes de Jodorowsky. Et pour le coup, là, ça m'avait vraiment plu. Et là, elle m'avait dit que je pouvais l'apprendre toute seule avec un livre. Donc c'est La Voix du Tarot de Jodorowsky que j'ai acheté donc à mes 18 ans avec la carte. Et à partir de ce moment-là, j'ai même déclaré un problème, et ça il faut faire vraiment attention, une sorte de dépendance aux cartes où je posais pour un oui, pour un non, je me tirais les cartes, quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc j'ai une sorte de dépendance comme ça au tirage de tarot. Puis, du coup, je suis allée enfermer mes cartes chez mes parents. Donc je pouvais y retourner, je les tirais que à l'été, à Noël, quoi, quand je retournais chez mes parents. Et puis maintenant, ça s'est vraiment apaisé puisque je crois plus trop à l'art divinatoire, enfin, je crois plus que c'est toi-même qui te réponds à tes propres questions, donc tu prédis pas l'avenir, mais tu prédis ce que toi, tu aurais envie. Ou... Donc j'ai plus cette dépendance pour un oui, pour un non, quoi. Et le yoga, bah alors c'est assez particulier aussi, parce que ma mère pratique du yoga depuis toujours, parce qu'elle est handicapée physique, et c'est ce qui lui a permis notamment de reculer l'avancée de son handicap. Donc ça fait 45 ans qu'elle pratique du yoga, très très long. Et quand j'avais pratiqué ça avec elle, quand j'avais 10 ans, j'avais trouvé ça horrible. Terriblement lent, trop dur, j'avais vraiment beaucoup de mal, donc j'ai pas pratiqué ça avec elle, et j'ai attendu d'arriver au TNB justement, première année, c'était mon deuxième stage, et c'était une danseuse qui était metteur en scène aussi, qui nous a livré l'ashtanga, et pendant un mois on a fait tous les jours de l'ashtanga, et après ça m'a plus quitté, quoi. Enfin je l'ai plus quitté.
Comment pour toi ces pratiques-là se rejoignent? À quel point elles se croisent?
Bon, déjà, le yoga et le théâtre, pour moi, sont indissociables aujourd'hui, dans ma vie. L'ashtanga yoga m'a vraiment bouleversée, parce que depuis que je suis petite, je cherche un sport. Je vais dire un sport, parce que pour moi, c'est important, c'est ce que je cherchais à la base. Je cherchais un sport qui alliait la force, la souplesse et la spiritualité. Donc, j'avais fait du judo, j'avais fait du taekwondo, la danse, ça m'a complètement déçue. Je me suis vraiment très, très vite ennuyée à la danse, parce qu'il n'y a vraiment aucune spiritualité, aucun désir d'être mieux, quoi, de se transformer. Alors que dans les arts martiaux, il y a. Mais la violence des arts martiaux m'avait quand même très vite... Enfin, c'était dur, quoi. Genre, j'aimais pas rentrer chez moi en ayant porté des coups, enfin, reçu des coups. C'était un peu dur. Quand j'ai fait le yoga, enfin, quand j'ai découvert le yoga, là, quand c'est venu à moi, l'ashtanga, là, pour le coup, je me suis dit, OK, c'est le sport que j'ai toujours cherché. Parce qu'en théâtre, Ce qui me fascine, c'est les acteurs qui sont extrêmement agiles. Alors pas toujours, mais notamment les cours très lourds, ça me fascine aussi. Mais en tout cas, je sais que moi, j'avais envie d'être une actrice qui soit en pleine possession de son corps. Et l'ashtanga me permet vraiment, vraiment ça. Donc ça, la pratique physique du yoga, pour moi, elle est indissociable à ce niveau-là. Et même, tu vois, enfin pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'amusement et le jeu. Enfin, pour moi, je fais du théâtre parce que ça m'amuse. Et pour moi, l'ashtanga, ça m'amuse. Tu vois, genre tomber parce que j'essaye de faire un équilibre, ça m'amuse en fait. Les chutes m'amusent beaucoup. Et puis après, le côté spirituel, c'est surtout que ben, mon métier, il est très, très dur émotionnellement. Et le yoga, pour moi, c'est l'équanimité, donc c'est-à-dire des émotions égales. Pour moi, c'est ça le bonheur. Je sais que pour les gens, ils sont là genre, mais non, mais quel enfer, ne pas avoir d'émotions, c'est horrible. Pour moi, c'est pas ça le bonheur, c'est pas avoir des grandes joies et des grandes peines. Pour moi, ça, c'est pas du tout ça, quoi. Pour moi, le bonheur, c'est justement un état de bonheur constant. Donc pour les gens, ils disent, mais c'est quoi un bonheur constant? Ben, pour moi, c'est genre ni ressentir des joies extrêmes qui sont fausses, ni ressentir des peines extrêmes qui sont fausses aussi, mais qui te font trop de mal. Et donc, mon bonheur, ce serait genre un état de paix, tu vois. Genre, on me dit une grande nouvelle, bah, je suis contente, mais pas non plus, faut pas exagérer. Et on me dit une grande tristesse, je suis triste. Mais sans plus, tu vois. Ce serait ça, pour moi, le but absolu. Et pour le coup, le yoga, je trouve, m'entraîne à ça. Et quand, vraiment, j'ai des coups très, très durs avec mon métier, puisque ça fait des montagnes russes, quoi, vraiment constamment. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire, genre, OK, on m'interdit d'être actrice. Vraiment, j'ai ressenti plusieurs fois ce truc de me dire, genre, vu que je ne suis que dans le désir des autres, je ne suis pas en pleine possession de ma carrière. Il m'est arrivé de me dire, OK, bah, je pourrais plus jamais être actrice, c'est sûr, on m'a arraché ça. Et ben le matin, je me réveillais et je me disais, mais personne pourra m'enlever le yoga, tu vois. Et ça n'a pas de prix, je trouve. Voilà. Et puis bon, les cartes, c'est plus mon côté mystique, parce qu'il n'y a pas vraiment un lien. Enfin, je veux dire, on peut très bien être actrice ou yogi sans... Non, on ne peut pas. Sans être mystique, j'allais dire non.
Et puis, il y a beaucoup de yogis qui utilisent justement les cartes comme support pour tout un tas de raisons.
Mais parce que pour moi, j'ai l'impression... Enfin, vous pourrez, tous les deux, vous pratiquez beaucoup... Moi, j'ai l'impression, depuis que je pratique le yoga, il y a quand même des choses qui s'ouvrent au niveau des perceptions, en tout cas. J'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible aux choses qui m'entourent. Donc, je pense que ça ouvre aussi cette envie de mystique, un peu, quand même. Et pour le coup, pour moi, c'est très compliqué d'être acteur sans croire... J'allais dire croire en Dieu, mais non, parce que c'est pas... Quand je dis Dieu, on comprend pas le bon terme. Mais pour moi, je vois pas comment on peut être acteur sans être un tout petit peu déiste, au moins. Déiste, c'est-à-dire, tu crois pas forcément en une religion, mais tu crois qu'il y a quelque chose qui existe. Parce que franchement, il y a trop de... Quand tu joues au plateau, ce qui se passe, c'est trop mystique, tu vois. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut être athée et acteur. Mais je sais que ça existe. Et c'est de très bons acteurs aussi qui sont athées et acteurs. Mais...
Ils croient au moins aux histoires qu'ils racontent.
Oui, oui, de toute façon, quand t'es athée, tu crois en quelque chose, tu crois qu'il n'y a rien non plus. Donc la croyance existe. Oui, ils croient aux histoires qu'ils racontent, je sais pas. En tout cas, ils croient que ça va percuter la personne en face.
Le Ashtanga Yoga que tu pratiques et enseignes correspond à une énergie yang et à un rapport particulier au corps et à ses limites. Qu'est-ce qui t'apporte? Tu as un peu répondu, mais concrètement, dans ta vie physique, relationnelle et spirituelle.
Ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui vont écouter, c'est qu'il y a, c'est pas vraiment en yoga, parce que yoga, c'est un grand terme, en Ayurveda, du moins, on dit qu'il y a le corps a trois choses. Désolée, c'est le chat qui court. Donc, on peut être Pitta, Vata, Kapha. Enfin, on est les trois, mais on a un équilibre différent des trois. Donc, Pitta, c'est le feu, Vata, c'est l'air, et Kapha, c'est la terre, l'eau. Et moi, je suis très Pitta, Pitta, Pitta. C'est-à-dire très feu, feu, feu. Donc, forcément, je suis vraiment très, très attirée vers les pratiques qui activent le feu, donc le yang. Mais en même temps, c'est pas bon pour moi du tout, puisque je suis déjà tellement Pitta que de faire que du Pitta, c'est pas bon. Mais du coup, je pratique beaucoup de yin aussi, mais en fait, ce que je ressens dans l'ashtanga, c'est de l'amusement. Moi, c'est ça. En fait, j'ai une énergie très enfantine. Et quand je pratique de l'ashtanga, j'ai énormément de joie. Je suis vraiment tellement, tellement reconnaissante d'avoir découvert cette pratique parce que pour moi, le seul endroit où je m'amusais dans la vie, c'était au plateau, enfin où je m'amusais vraiment, je veux dire. Et je me suis dit, justement en faisant ma formation de professeur d'ashtanga, je me suis dit, j'ai enfin trouvé un autre endroit où je m'amuse autant qu'en tant qu'actrice. Pour moi, la pratique yang, c'est découvrir que la chute n'est pas un problème, tomber c'est tout à fait normal, ça j'adore. Tu dépasses vraiment tes peurs, tes traumatismes, tes idées limitantes en te disant non, je pourrais pas tenir sur la tête. Ben oui, tu pourras, mais tu vas beaucoup tomber avant, mais c'est pas grave. Ah, mais tomber c'est pas grave. Non, je te jure, c'est pas grave de tomber. Puis j'ai eu une phase aussi, je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais j'ai eu une phase où genre, je me rendais compte que mon corps pouvait presque avoir des super pouvoirs. Et en fait, genre, même dans le métro, d'un coup, je me suis dit, genre, oh, j'aimerais trop genre, faire un grand écart sur la barre où on tient, tu vois. J'avais envie d'un coup, je regardais la barre comme ça, j'étais là, genre, oh, j'ai trop envie de mettre ma jambe. Et genre, juste, tu vois, juste, genre, de. Je sais pas, c'était trop étrange. J'ai eu vraiment une grande phase comme ça où genre, j'avais envie de partout dans l'espace public, de faire surtout des grands écarts dans des endroits comme ça. Je sais pas, c'était hyper étrange. C'était. Je réalisais pas mes fantasmes, mais. Ça me le fait moins maintenant. Mais c'était au début, ouais, où vraiment je me suis dit, waouh, je peux faire tout ça et tout, c'était fou.
Je peux mesurer l'espace avec mon corps.
Ouais, ça fait ça.
On change un peu de sujet, mais qu'est-ce que c'est pour toi être une comédienne engagée aujourd'hui? Le choix des thèmes qu'on traite n'est pas la seule manière de l'être. Et on voit ces derniers temps qu'il y a pas mal d'actrices, dans le cinéma notamment, qui font aussi des choix éthiques de travail, plus personnels. Comment tu envisages cela?
Je sais pas. En fait, je sais pas si être engagée, c'est un choix ou ça, si ça vient parce que c'est nécessaire, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir choisi d'être engagée. J'ai l'impression qu'à un moment, il y a des choses qui, pour moi, je peux pas accepter de vivre. Donc, c'est nécessaire. Et donc, ça amène à un engagement, mais... Enfin, comment dire? Par exemple, je regardais le documentaire de Marilyn Monroe sur Netflix, là. Et je me disais, c'est indécent, en fait. C'est indécent, c'est abominable, quoi. À quel moment on a pu croire que les actrices, elles étaient là pour satisfaire les plaisirs des hommes? À quel moment, en fait? À quel moment on s'est dit, être actrice n'est pas un travail, en fait. C'est donner du plaisir. Et pour moi, c'est juste que ben, si je veux faire mon métier en me respectant et qu'on me laisse faire mon métier en me respectant, j'ai pas le choix, en fait. Enfin, il n'y a pas le choix d'apprendre à dire non, c'est très dur, de du coup être en conflit avec certains hommes. Moi, je peux pas autrement, en fait. C'est-à-dire que déjà, il m'arrivait déjà d'être face à des situations de me dire « Ok, est-ce que je suis prête aujourd'hui là à me vendre pour avoir ce que je désire ?» C'est pas possible. Et je me pose sincèrement la question, parce que pourquoi pas? Enfin, vraiment, pour le coup, que les femmes qui ont fait ça, je les comprends tout à fait, tu vois. Enfin, vraiment, vous voulez être actrice et on vous dit « Tu as le rôle que tu veux parce que tu fais ça », je les comprends fois un million, tu vois. Mais pour moi, c'est impossible, je ne peux pas. Donc, bah, j'ai pas le choix, il faut que je lutte pour que ça change. Parce que si ça change pas, j'ai pas de travail. C'est parce que je suis une femme que je suis engagée, tu vois. Je pense que les personnes non blanches, elles sont toutes aussi engagées parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait, tu vois. Si elles veulent avoir un rôle, un premier rôle qui soit pas le voleur de scooter ou je sais pas quoi, bah, elles sont obligées d'être engagées, tu vois. Elles sont obligées de dire, bah non, mais il faut que ça change, en fait. Moi, j'ai envie d'avoir un rôle qui est à la hauteur de ce que j'espère pouvoir donner. Il faut que ça change, il n'y a pas le choix. Donc moi, ce que j'aimerais, au contraire, c'est que les hommes s'engagent, pour le coup. Nous, on n'a pas le choix, nous, c'est vital parce qu'on veut faire notre métier. Mais eux, les hommes, ils peuvent faire changer les choses et ils peuvent décider de s'engager, puisqu'ils ont le monopole du pouvoir. Donc eux, pour le coup, ils devraient, je trouve, beaucoup plus s'engager, beaucoup plus nous protéger, nous défendre quand ils le peuvent. Et je trouve que je suis très déçue parce que c'est très rare. C'est très, très rare.
C'est une belle réponse. J'imagine qu'au départ, on est dans le jeu, on se fait plaisir et puis il y a certaines situations qui... Tu dis, c'est parce qu'on n'a pas le choix, mais il y a bien des moments où on s'arrête et on se dit, ah, ça va pas être comme je l'imaginais. C'est ça la réalité des choses. Je sais pas, est-ce qu'il y a certaines situations qui t'ont fait prendre conscience de ça?
Alors, je pense que vraiment, bon, c'est symptomatique chez les acteurs parce que j'ai l'impression qu'on ose... Les gens osent plus dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. À partir du moment où tu décides en tant que femme de prendre une place qui appartient aux hommes, tu vas te confronter à ça, quel que soit le métier. Les scientifiques, la preuve en est, hein, tous les scandales, des recherches qui ont été volées des femmes par des hommes, enfin, je veux dire, dans chaque domaine où tu veux prendre la place qui est dominante, tu te confrontes à ça. Donc moi, je parle de mon point, mais je suis sûre que si j'avais voulu être, je sais pas, archéologue, je me serais confrontée à la même situation, parce que c'est symptomatique du fait d'être femme. Qu'à un moment tu te confrontes au fait que tu n'es pas à ta place, et en tant qu'actrice, c'est que tu te confrontes au fait que tu dois satisfaire le désir de certaines personnes. Depuis l'enfance, quand je vois des choses comme ça, ou quand je vois, maintenant c'est beaucoup plus que je l'ai conscientisé, mais quand je vois les cours d'école où les hommes, les enfants, garçons, ont toute la cour de récré, et que moi-même je me souviens que je ne jouais qu'aux abords de la cour de récré. C'est pas possible, en fait. Et donc pour moi, c'est autre chose que juste être actrice. Bien sûr, je le vis énormément dans ma vie d'actrice, et encore qu'aujourd'hui, grâce vraiment à l'affaire MeToo, tu vois, on me propose pas des choses, c'est beaucoup plus subtil, c'est pas genre, ok, couche, j'ai dans un rôle, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je le vis pas comme ça. C'est des choses beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus... C'est moins ouvertement, ouvertement, mais c'est... Ça y est toujours, c'est toujours ça, et...
des fois, on est influencé par des situations et on se rend compte quelques années plus tard que c'était pas du tout la condition dans laquelle on aurait idéalement réalisé les choses.
Vu que c'est plus aussi clair qu'avant, tu couches, t'as le rôle, etc. Quelle forme ça prend en fait? Comment on arrive à repérer aussi que là on est en train de mettre le pied dans quelque chose qu'on n'aimerait pas accepter?
Je vais parler des choses vaguement parce que j'ai pas envie d'attaquer les gens et chacun travaille à son endroit et petit à petit, tu vois. Notamment, j'ai eu un rôle où on ne voulait que je ne sois que sensuelle, rien d'autre. Et avant de monter au plateau, par exemple, le metteur en scène me disait « sois belle ce soir ». Et à chaque fois que j'essayais de débattre sur le fait que peut-être que mon personnage était plus que juste quelque chose d'un désir masculin, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est quoi sensuel? C'est genre que les hommes ont envie de moi. Ça posait problème. Ce n'était pas intéressant. Et tu vois, chaque soir avant de jouer, qu'on te dise « sois belle », genre ça me saoule, en fait, tu vois. Genre ça me saoule. En fait, comme le métier est très fluide et genre tu peux être très ami avec des metteurs en scène, très proche des gens, tu vois, tu vas faire une soirée, tu vas rigoler avec eux, puis d'un coup on va te bloquer dans un coin, et puis tu vois, si tu dis pas clairement non, si tu refuses pas clairement, on t'a bloqué dans un coin. Ou par exemple, la personne te parle ouvertement de ce qu'elle ressent pour toi en tant que metteur en scène, parce que c'est pour le travail. Parce que dans le travail, lui travaille avec le désir. Donc il va te dire clairement, moi tu serais... j'aimerais beaucoup... mais comme je te touche pas, enfin, tu vois, c'est genre du désir, je t'en parle, puisque c'est du travail, hein, mais moi, je ressens ça pour toi, voilà. Et donc, cette limite, elle est où, la limite, tu vois? Ok, d'accord, tu ressens ça pour moi, c'est du travail, donc là, c'est du travail, en fait, ce qui est en train de se passer. Ok, mais la limite est où? À quel endroit on va en mettre le stop, tu vois, genre... Après, heureusement, moi, jamais arrivé à un truc où on me dit « t'as le rôle seulement si ». Après, bien sûr, j'ai dû rater des rôles parce que j'étais pas assez féminine ou pas assez... Mais bon, ça, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'après l'école du TNB, ça, je peux le dire parce que pour le coup, ça vise personne et c'est vraiment général, je m'étais fait la promesse de ne plus jamais travailler avec des hommes hétérosexuels parce que j'avais vécu des choses où je me suis dit « c'est trop violent, en fait, je peux plus supporter, tu vois, que mon corps ne soit qu'un objet de désir ». Et il se trouve que la première personne qui m'a employée, qui m'a donné un rôle absolument magnifique, c'est Jean Boileau, qui est un metteur en scène de 50 ans. Et au début, ça a été très bizarre pour moi, parce que même moi, j'étais un peu en mode, genre, je savais plus, genre, est-ce que je dois séduire ou pas? Enfin, je comprenais plus où étaient les choses, tu vois. Et lui, il a mis une distance, mais ce n'était que du travail. Jamais il y a eu un geste déplacé, jamais il y a eu rien. Et il était hétérosexuel, enfin, voilà. Et je me suis dit, je lui ai écrit une lettre à la fin du projet, je lui ai dit merci parce que tu viens de briser la malédiction. Tu vois, tu viens de me prouver qu'il y a des hommes hétéros avec qui il n'y aura pas de... C'est du travail, quoi. Je suis une actrice, genre... Parce que mon rôle, c'est de donner des émotions et d'interpréter un rôle qui est écrit et de donner des émotions aux spectateurs. C'est tout, c'est ça, mon rôle, tu vois. Et moi, j'adore faire ça, j'adore que les gens sortent et soient émus, tristes. Et avec lui, ça a été ça. Ça a juste été du travail, quoi. Il n'y a aucun endroit de... Ah, mais... séduction, je t'ai choisi parce que... Non, il n'y a rien. C'est du travail, point barre. Donc, c'est possible de... C'est pour ça que je demande aux hommes de s'engager. Parce que c'est facile de briser les malédictions, en fait. Et malheureusement, c'est les hommes qui sont agissants dans cette situation. Donc, ou je ne travaille qu'avec des femmes ou des homosexuels. Mais ça limite beaucoup et c'est vraiment dommage parce que j'ai pas envie, tu vois. Ou je pense qu'il faut que, ouais, que ça change, quoi. Que les hommes s'engagent et qu'ils se rendent compte que pour nous, c'est pas agréable, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, peut-être pour certaines femmes, ça l'est. Mais moi, ça n'est pas agréable du tout d'être juste un objet de désir. Bien sûr, ça peut être agréable et tout, mais c'est pas du travail. C'est pas le travail. Dans la vie, ça peut être agréable de dire, OK, cette personne me désire, je ressens aussi du désir pour elle. Mais dans le travail, non, c'est pas OK. C'est pas OK. Et bon, ça, mais c'est compliqué, parce que ce métier-là, il joue avec ça, donc c'est compliqué, hein.
Après, la question du désir peut être abordée de manière très professionnelle.
Oui, voilà, exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se confond beaucoup.
Tu vois, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est pas quelque chose que tu aurais pu te sentir libre de dire dans le cadre de ta formation, par exemple, si?
Non, non. Il y avait beaucoup, beaucoup de conflits par rapport à ça. Je pense que c'était pas du tout une promotion qui était évoluée à ce niveau-là. Mais clairement rétrograde. Il faut savoir que notre dernier spectacle de sortie, c'était le désir. Metteur en scène de 60 ans, qui met en scène des jeunes de 23 ans sur le thème du désir. J'ai rien d'autre à dire.
Peut-être qu'il y a un peu ce mythe qu'il faut, au sein même de la formation, expérimenter ce désir pour ensuite, sur scène, pouvoir rendre cette émotion comme s'il y avait besoin de le vivre en coulisses pour pouvoir le jouer ou le faire sentir aux spectateurs, spectatrices. Peut-être que ça, c'est un mythe à briser aussi.
complètement. Et puis après, bon, écoute, c'est normal que dans des formations où les jeunes sont... là, je pense aux danseurs, tu vois, bien sûr qu'ils sont magnifiques, ils sont... T'as l'impression que c'est des jeunes effables, ils se désirent. Bah, très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec le travail, en fait. C'est, ils sont jeunes, ils sont dans une classe, ils ne connaissent personne dans la ville, ils peuvent se désirer. Bien sûr qu'il se passe des choses, il n'y a aucun problème. Mais puis, il y a le rapport d'autorité, tu vois. Je ne comprends pas que les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait. Genre là, je suis enseignante dans un lycée, donc j'ai des terminales en théâtre. Et je vois les gamins, tu vois. Je me dis, mais j'ai un rapport d'autorité énorme sur eux. Je vois la manière dont ils me regardent, la manière dont je fais autorité sur eux. Mais comment est-ce que les enseignants peuvent oser, même en école, on a 4 ans de plus, on avait 22 ans au TNB. Mais comment tu peux ne pas te rendre compte que tu as un pouvoir, que c'est insalubre en fait ce que tu es en train de faire. Genre de créer un désir avec des jeunes de 22, alors que tu es un professeur, tu as du travail, tu vas peut-être proposer du travail après. Comment est-ce que tu peux avoir l'impression que la personne est consentante face à toi? Moi, c'est la question du consentement. J'ai jamais compris que des gens aient envie d'avoir des relations avec d'autres gens qui n'ont pas l'air d'être pleinement consentants. C'est-à-dire pleinement consentants, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rapport de force, de rapport de pouvoir. Mais ça, c'est pour moi, c'est la société. Hein. Là, moi, je parle d'une chose qui est dans mon métier, mais pour moi, c'est partout. Ça, c'est partout, partout. Ce truc de ne peut-être pas assez s'aimer, ou peut-être qu'on a fait croire à certaines personnes que sans ce pouvoir, ils ne pourraient jamais avoir des gens qu'ils désirent. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer, parce qu'en effet, moi, ce que je vois, c'est que je comprends pas, en fait, comment des gens peuvent être attirés par des jeunes qui sont complètement manipulables, quoi. Je comprends pas. Et donc, quand tu parles d'engagement, oui, je suis engagée, mais parce que... Et ça se voit parce que je joue au plateau, parce que... Donc, on le voit. Mais pour moi, c'est dans toute la société que ça doit changer.
Est-ce que cet engagement, il passe aussi par le fait de prendre cette décision de jouer que pour soi-même? Ou ce qu'on crée, ou pour sa propre compagnie. Est-ce que ça serait envisageable de ne plus jouer pour les autres, mais de créer ses propres conditions de travail pour toi?
Pour moi, c'est impossible. Parce que moi, je suis vraiment actrice au fond de moi, même si j'ai mis en scène Ignis, je suis actrice, vraiment. Donc pour moi, c'est impossible de ne jouer que pour moi ou qu'avec ma compagnie. Dans mon schéma, moi, c'est impossible. Adèle Haenel, c'est ce qu'elle fait maintenant. Je sais pas si vous avez vu, elle veut plus jouer au cinéma. Donc c'est fou, quoi. Donc en effet, il y en a, après ça dépend comment tu vis la violence. Déjà, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas vécu de traumatisme direct, donc j'ai pas je peux résister à la violence puisque j'ai pas de mémoire traumatique. Donc non, moi je continuerai à travailler avec des gens. Par contre, la question se pose, est-ce que en effet s'il y a de très très grands metteurs en scène qui sont connus pour être des agresseurs, est-ce que j'accepte ou pas? Ça, c'est plutôt la question. Moi, je m'estime pas être une artiste, donc j'ai besoin de travailler avec des artistes. Mais les gens qui s'estiment artistes, en effet, oui, je pense que pour eux et elles, il faut, ouais, vraiment, ils peuvent juste créer leurs œuvres. Après, bon, c'est compliqué parce qu'il faut aussi t'ouvrir, je trouve, tu vois. Si tu travailles que pour toi-même et que pour ton collectif.
Oui, mais tu peux choisir de faire des collaborations et que ce soit toi qui décides au maximum de la mise en place de tes conditions de travail, non?
Ouais, donc tu deviens, oui, tu n'es plus dirigé par quelqu'un d'autre.
Ouais. Et c'est quelque chose de difficilement possible en tant que comédienne?
Impossible.
Tu pourrais pas te dire aujourd'hui je ne travaille qu'avec Louvre?
Si, mais je n'aurais pas de salaire. J'ai vrai d'amour, et d'eau fraîche. Non, pour moi ce serait impossible. Pour moi en tant que ce serait impossible. Pour moi c'est impossible. Mon but c'est de devenir la meilleure actrice que je puisse être de moi-même. Impossible si je travaille toujours avec les mêmes personnes. Impossible. Moi je progresse parce que je vois des acteurs qui me fascinent et dans chaque projet que je fais, je vois une personne qui me fascine et je lui pique des trucs. Donc si je travaille toujours avec la même personne, j'arrête quoi de progresser. Donc non, ça serait impossible.
Du fond, des tréfonds, des ténèbres, demande-toi à chaque réveil, quelle est la fête? Lumière, s'il vous plaît.
Ah, mais j'arrive.
Comprends que la chair est une célébration du vivant, que la vie est une célébration incessante. Réjouis-toi. Jette au feu les caprices enfantins de la tristesse et de la peur. C'est maintenant l'heure de la joie cataclysmique du vivant. Soyons le pilier central d'une danse cosmique.
Bonne nuit, pauvre qui a ouché. Mais otra vez, présentame au Bayana. Et on va cantar comme oui. Yeah.
Pour en venir maintenant au collectif Louvre, votre meute, telle que vous la nommez, s'est réunie en 2015 et rassemble aujourd'hui 11 jeunes femmes, comédiennes, autrices, metteuses en scène, scénographes, costumières, créatrices lumière, régisseuses et designers graphiques, absolument féministes et engagées sur les fibres tortueuses de l'intime et du politique. Comment as-tu découvert puis intégré le collectif Louvre?
Alors attends, j'essaie de réfléchir combien on est, parce qu'on est... Donc, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je suis à la base de la... Enfin, je suis dès le début. On est 4, je crois, d'être dans de cette équipe-là, de base. Donc, ça s'est passé parce que j'étais au cours Florent et j'ai rencontré Laure Marion. On était en classe ensemble, on s'est beaucoup apprécié, on a vraiment aimé travailler ensemble. Et Laure Marion, avec Lola... Lola Guitturez, c'est elles qui ont vraiment dit « Bon, là, faut qu'on fasse un truc. » En gros, au cours Florent, c'était l'exacerbation. Moi, j'ai adoré cette école. J'ai vraiment appris énormément de choses. J'étais très, très, très heureuse. Mais alors là, tu pouvais vivre toutes les horaires possibles, imaginables. Dans tout. Notamment dans « Bon, bah, vous êtes des meufs. » C'est très simple. Il faut savoir, par exemple, au concours du TNB, il y en a 1000 candidats. Dans les 1000 candidats, il y a 700 filles, 300 mecs. Et au final, ils prennent 7 mecs, 7 meufs. Okay. Donc, tu captes que pour, au niveau du pourcentage, t'es niqué quand t'es une meuf. Donc déjà, quand on passait les concours, on était tous là. Mais en même temps, moi, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. Mais beaucoup l'ont vécu. Moi, je l'ai pas du tout vécu, mais on est toutes des adversaires. Moi, j'ai pas du tout vécu ça. Moi, j'ai jamais senti que les meufs étaient mes adversaires. Et pour moi, travailler les concours au cours Florent, c'était génial. Mais je sais qu'il y a plein de filles qui ont vécu ça, et des professeurs qui leur ont dit et tout. Et donc, Laure Marion et Lola Guitturez se sont dit, bah, faut qu'on fasse un truc pour... On nous dit qu'on va être des adversaires dans le métier. Bah, faut qu'on fasse un truc pour pallier ça, enfin, pour aller contre. Et elles ont décidé de... Du coup, de créer le collectif Louvre que de meufs, où on se donnerait du travail qu'entre meufs. Donc, on était 10 aussi au début. Et puis bon, après, il y a eu des mouvements. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont rentrés. Donc, c'est comme ça que s'est créé le collectif. Et donc, moi, j'étais à la base, mais je n'ai pas travaillé avec elle pendant 3 ans, puisque j'étais au TNB. Et en 2018, du coup, je suis revenue avec elle. Voilà un peu comment ça s'est passé.
Quelles thématiques sont déployées à travers vos créations? Et y a-t-il des préoccupations sous-jacentes?
Bon, déjà, il y a un truc qui s'est installé par hasard et au fur et à mesure, c'est le chant polyphonique. Bien sûr, après, qu'est-ce que c'est de ne jouer qu'entre femmes? Enfin, ça, donc, voilà, pour l'instant, on ne travaille même qu'avec des femmes. Il y a parfois, par exemple, après vos productions, il y a un homme dans la production. Celui qui a fait les photographes sur Ignis, c'est un homme. Mais on essaye, en tout cas, surtout quand c'est rémunéré, d'employer des femmes. Préoccupation sous-jacente, là j'en pense à une qui est vraiment une chose qui nous pose vraiment question depuis le début, c'est que au cours Florent on était surtout beaucoup de blancs et de blanches dans cette école et du coup dans le collectif majorité de blancs, de blanches et ça nous pose vraiment question. Ça c'est vraiment déjà au début on avait une uniformité de corps, on avait à peu près toutes les mêmes corps, ça nous posait vraiment problème. Maintenant, ça c'est vraiment ça c'est je trouve rééquilibré. On a des corps plus différents, mais par contre voilà, on a vraiment un problème au niveau de la mixité quoi. Donc ça c'est voilà, c'est notre vrai questionnement parce qu'on peut représenter toutes les femmes, notamment Scorpion par exemple. Ça c'était très pour moi là, par exemple les vieilles personnes c'est très très important pour moi. J'ai vraiment très envie de faire un projet avec des vieilles personnes, ça s'est pas fait, etc. Enfin les vieilles femmes. Et par exemple Laure Marion avait dans son projet Scorpion avait mis notamment des âges différents. Ça pour moi c'est hyper important aussi. Alors je sais pas si on va faire intégrer parce que là on est dans un état de précarité avec le collectif, c'est compliqué de faire entrer quelqu'un de 50 ans et de pas payer cette personne parce que t'as toute une vie derrière toi et tu peux pas accepter les mêmes choses. Mais en tout cas, on aurait vraiment envie de faire un panel de femmes qui est plus réel, plus réaliste.
Et au niveau des thèmes que vous abordez dans vos spectacles, comment ça se décide et quels sont-ils?
Alors ça se décide selon ce qu'on a envie de faire, mais bon, forcément, c'est en lien avec le fait qu'on n'est que des femmes au plateau. Par exemple, les projets précédents, je pense aux deux derniers, Scorpion et Infini Blanc. Infini Blanc, c'était la violence de mère à fille. Et Scorpion, c'était la violence intériorisée des femmes, la misogynie intériorisée. Donc la misogynie que le patriarcat nous a appris, mais qui est redonnée entre femmes. Donc forcément, ça c'est là, les thèmes sont forcément modifiés par le fait qu'on n'est que des femmes. Et donc, Ignis, c'est un peu la suite de Scorpion, je dirais. C'est-à-dire, c'est comment, avec toutes les injonctions patriarcales, notre personnage se réalise dans le vieil âge. En étant vieille femme, elle se réalise dans notre histoire. Donc c'est un peu, on est un peu les rêves de nous-mêmes, genre ok, on gère nos problèmes dans ce collectif, enfin, Tu vois, ok, j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est la violence qu'on s'exerce entre femmes. Bah, du coup, on va faire tout un projet sur ça. Et du coup, on va énormément s'interroger sur est-ce que moi, j'ai été violente avec d'autres femmes? Comment j'ai été violente avec d'autres femmes? Comment est-ce que je peux gérer ça? Quel est mon rapport avec ma mère? Est-ce que je vais transmettre la même chose à mes enfants? Voilà un peu les thèmes qu'on aborde et qu'on recherche. Mais ça va peut-être s'ouvrir. Vraiment, la préoccupation aussi en ce moment, c'est on aimerait travailler avec des hommes. Hein, et... Plus ça fait 5 ans, 6 ans que s'il existe le collectif, donc oui, on a vraiment envie de travailler avec 50, l'autre 50% de la population. Mais donc ça, c'est une vraie préoccupation, parce que comment on ne dénature pas aussi l'image du collectif, son essence? Voilà, ça, c'est un peu le questionnement actuel.
En choisissant que des hommes féministes.
Non, mais déjà, ça, c'est sûr.
Tu as commencé à en parler en me disant que ça vous amenait pas mal de réflexions. Mais la question suivante portait justement sur le fait que ces sujets abordés, tels que les violences faites aux femmes, la perpétuation du patriarcat, par la majorité des personnes, même de manière inconsciente, et qui peuvent être assez vives, selon notre vécu, sont très délicats. Et donc, pourrais-tu développer un peu plus sur la manière dont vous préparez ces sujets-là?
En fait, déjà, le fait d'avoir ce collectif, et on reçoit beaucoup de messages de femmes désirant intégrer ce collectif, et je comprends tellement pourquoi, parce que en fait, on sait que c'est un endroit de... Même s'il y a eu des disputes et des endroits d'incompréhension, c'est un endroit privilégié, c'est un endroit de... Comment dire ? D'accueil. Dès qu'une des louves vit une action traumatisante dans la vie ou dans son passé, on s'en parle entre nous et t'es sûr qu'il y a une écoute bienveillante. Et même au-delà, c'est une écoute qui va te soulager, mais... énormément. Donc déjà, de base, pour moi, ce collectif, ce qui est hyper fort, c'est que c'est vraiment un endroit où je sais, quand je vis des violences à l'extérieur, je sais que si j'en parle aux filles... Tu vois, quand t'en parles dans la vie, tu marches toujours sur des œufs. Parce que tu te dis, ok, la personne en face, elle va peut-être encore raviver ce souvenir en disant « Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Ah, ben non, mais c'est normal de faire ça. » Enfin, tu vois. Au lieu de dire « Ok, je comprends, t'as souffert, pourquoi j'entends et tout », ça va être genre... Ça va être, tu vas possiblement avoir un « Non, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. » Alors que tu n'en as pas du tout besoin à ce moment-là. Et donc déjà, le collectif, c'est ça. C'est vraiment un truc de genre, ok, j'ai vécu un truc super dur, ok, on en parle, waouh, ok, ça fait trop du bien, on se prend dans les bras, on en parle et tout. Ah bah tiens, on va faire peut-être un projet sur ça. Et donc on a eu bien, surtout au début du collectif, d'énormes discussions sur toutes les violences qu'on a vécues. Et là, on s'est rendu compte de tout, tu vois. Notamment, voilà, il y a des traumatismes qui ont été... on a posé des mots, certaines personnes ont posé des mots sur certains traumatismes, tu vois, qu'elles ne pensaient pas avoir vécu, qu'elles ne pensaient pas que c'était ça, et en fait, elles l'avaient vécu, tu vois. Donc des choses immenses se sont ouvertes. Et donc comment après on travaille? Ben généralement on travaille un peu comme ça, c'est-à-dire on travaille, la metteur en scène amène un sujet. Voilà, là j'aimerais qu'on parle, bah tiens je vais prendre Scorpion, j'aimerais qu'on parle de la violence intériorisée des femmes, de la misogynie intériorisée. Ben on va en parler d'abord, on va faire les tables rondes, on va dire ok, est-ce que moi j'ai été misogyne? On va s'observer dans la vie. Ce projet il a commencé parce que justement Laure Marion s'est dit, elle était dans le métro, et elle a vu une fille en jupe, mini-jupe, et elle s'est dit ouf, trop court. Et elle s'est dit, pourquoi je viens de te dire en regardant cette femme trop court? Enfin, qui suis-je pour dire trop court, tu vois? Le projet est né à partir de cette phrase qu'en fait, on a toutes. Donc voilà, ça commence comme ça. Après, il y a des expériences. On fait des cartes blanches, tu vois. Avec Scorpion, on avait fait... on avait chacune un thème. Et on devait créer une chose. Par exemple... comment est-ce qu'une fois j'ai été violente avec moi-même? Comment est-ce que je n'ai pas su me protéger? Ça, c'est déjà une misogynie intériorisée. Parce que je ne m'estime pas. Parce que j'ai été éduquée à ne pas m'estimer. Donc, je suis violente envers moi-même. J'accepte qu'on me fasse du mal. Et je vais faire une carte blanche sur ça. Donc, ça peut vraiment... surtout sur Scorpion, hein, parce que Scorpion, on a vraiment travaillé sur ça. Ignis, on l'a un peu moins fait. On avait beaucoup moins de temps pour la création. Donc, on l'a moins fait. Mais ouais, Scorpion, ça avait vraiment fait sortir des choses. Il y a eu des moments de grandes émotions et tout. Et puis à partir de là, on prend des images. Et après, bon, on imagine dans notre tête. Et après, on regroupe les filles. On dit, ok, là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça.
Et Scorpion, pourquoi le titre?
Parce que Scorpion, en fait, les Scorpions, quand ils sont en danger, ils s'auto-tuent. On croit, en fait, ils ne se tuent pas. Ils stressent et ils s'endorment avec leur dard. Mais en gros, quand tu les mets dans du feu, par exemple, tu les entoures avec feu ou tu veux les tuer, ils s'auto-piquent. En fait, ils y tombent dans le coma. Et pendant longtemps, on a cru qu'ils se suicidaient, en fait. En fait, ils ne se suicident pas, parce que tu attends 2 heures, ils se réveillent, ils repartent. Mais c'est ce truc de « je suis en danger, je me fais du mal à moi-même. » Au lieu d'attaquer l'autre, je m'auto-tue, quoi. Okay. Sauf que tu ne t'auto-tues pas, en fait, tu t'endors.
Il est aussi question d'héritage, de celui de nos mères, de celui des mythes. Est-ce que le format du témoignage, par exemple, est une ressource pour vos spectacles ?
Bah, on avait vraiment très très envie sur Ignis, on n'a finalement pas eu l'argent pour le faire, mais d'aller interroger des vieilles femmes. Moi j'avais envie de faire un documentaire, j'avais envie de les filmer, j'avais trop envie de faire ça. Donc ça aurait dû l'être. Ça ne l'a pas été, pour toujours des questions financières. Ça l'est surtout entre nous pour l'instant, on ne va pas interroger des gens à l'extérieur. Enfin, quoique là, dans certains projets, ça commence à... Mais en tout cas, si les témoignages sont hyper importants. Après, pour l'instant, on a très peu de moyens. Là, ça commence à s'ouvrir un peu. On commence à avoir de plus en plus de subventions et tout. Mais au début, c'était tellement restreint qu'on n'allait pas, tu vois, contacter des... Par contre, les témoignages sont importants. On prend les témoignages qui nous entourent, de femmes qui nous entourent, ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Quand j'ai fait des recherches sur votre collectif, vous dites que vous cherchez à défaire les archétypes à travers de nouveaux rôles. Quels sont-ils ?
On va revenir à cette même question. Nouveau rôle, c'est très simple. C'est ce truc de... Il y a 1000 candidats, il y a 700 meufs et 300 mecs. Il y a 7 filles qui sont prises, 7 garçons. Et dans le spectacle de sortie, c'est que les mecs qui ont les rôles principaux. C'est faire que moi, je passe une audition, il y a un seul rôle de meuf. Par contre, il y a 10 mecs. Donc tu dois être la meilleure de toutes les meufs. Comment t'es la meilleure ? Je sais pas. T'as aucune idée. On est toutes bonnes, donc je sais pas comment tu fais pour être la meilleure. Mais c'est ce truc de, on va se donner les rôles principaux. Voilà, c'est ce truc de, en fait, il n'y a pas de rôle principaux pour les femmes, où il y en a un seul. C'est la femme. Et donc là, on décide, c'est ça, en se mettant enfin, en étant que des femmes en plateau, il n'y a pas la possibilité que tu aies un petit rôle, quoi. Ou tout le monde a un petit rôle, mais on est toutes à la même enseigne. Voilà, c'est vraiment ça. Après, détricoter les archétypes et... c'est ça, c'est se donner, qu'on arrête de me dire avant de jouer au plateau, tu vas être belle. Tu vois, c'est faire que le rôle que je vais jouer va être plus que beau.
Et notamment, toi, d'un point de vue personnel, t'as une manière de jouer qui en plus, c'est pas tellement une manière de jouer, mais juste, ou de jouer avec son corps justement, ou avec, il y a beaucoup d'autodérision. Enfin, je trouve que même par rapport à plein d'autres personnes, ça se voit dans la personnalité de ton jeu que... Tu t'en fiches, il y a de la grimace, il y a du cri, mais pas un cri hystérique, un cri qui se distord. Toi, personnellement, c'est aussi des... Tu changes complètement, c'est pas juste je joue plus les rôles que de femmes, c'est je joue des rôles qu'on m'aime pas tout à fait de... Enfin, j'invente un peu la forme de ce que je suis en train de jouer, non ?
En fait, j'avoue, j'y réfléchis pas trop. Hein. Moi, je réfléchis au fait que je veux m'amuser, tu vois. Et faire des grimaces et être moche et être complètement enfantine, ça m'amuse beaucoup, quoi. Ça m'amuse vraiment beaucoup, donc... c'est pour ça que ça me fait profondément chier. Et en même temps, je pense, j'adorerais jouer un rôle où je suis juste sublime et je joue Cléopâtre et... Mais une fois, quoi, tu vois, pas tout le temps. Mais oui, c'est vrai, j'y réfléchis pas, je t'avoue. Mais trop bien que ça te donne cette sensation-là.
Bah oui, parce que moi, je trouvais que c'était une manière, en tant qu'actrice... comédienne, actrice, d'être assez subversive, de se mettre dans ces états-là dans lesquels on voit pas forcément les femmes habituellement, même quand on a pu voir avec Mathis des spectacles au niveau du TNB. Toi, dans certains des rôles, il y avait quelque chose de très fou, mais genre de meuf qui hurle, qui, genre quand elle fait la fête, elle est dans un dépassement d'elle-même et de tout à coup elle s'en fiche si on voit sa culotte, si c'est joli ce qu'elle fait, si... Alors qu'il y a d'autres filles aussi sur le plateau où c'était plus géré quand même, tu vois. Il n'y avait pas ce « Oh, je m'en fiche, j'ai envie d'exploser et je le montre tel que j'ai envie de le montrer. » Et une fille peut porter ce hurlement aussi. Et pareil, dans Ignis, tu as joué au Floréal de Belleville la semaine passée. Il y a un moment, j'ai entendu, et c'est vrai que ça m'a fait penser aussi, j'ai entendu quelqu'un dans les spectateurs qui disait « Oh !» On dirait Gollum quand tu es en sorte de grenouille, tu fais plein de bruitages avec ta voix. Ouais. Et je me suis dit, oui, toutes les femmes ne sont pas capables d'assumer de jouer un Gollum. Est-ce que toutes les femmes ont envie que tout le monde voit leur visage ou voit leur corps en forme de Gollum ?
C'est très, très intéressant, pour le coup. Parce que moi, je sais que depuis toujours, c'est très intéressant ce que je produis chez les gens. Parce que les gens... Mais je peux produire beaucoup de violence au niveau de mon jeu. Les gens peuvent haïr ce que je fais. Donc c'est très fort, moi je suis très fière, je t'avoue que quand les gens, je la déteste, je suis genre, waouh, ouais, trop stylé gros, genre franchement si je te fais ressentir ça, trop bien. Et ou adore, tu vois, ou sont complètement genre, what the fuck, et genre, et forcément, tu vois, et ça, moi je trouve ça, c'est une, pour moi, ça a pu être de la souffrance, parce qu'en effet, au début quand j'étais là genre, waouh, ouais, comment je peux déclarer ça chez les gens. Mais c'est hyper intéressant, parce qu'en effet, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de juste, c'est que j'en ai rien à foutre en fait. Et que, au-delà que j'en ai rien à foutre, c'est que je m'en bats les couilles de plaire. Ça, c'est une... J'ai beaucoup de chance de ça, parce qu'en tant qu'actrice, je pense que c'est très problématique. J'en ai rien à foutre de plaire. Mais du coup, bah, y en a qui sont là, genre, attends, non, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé faire ça, calme-toi et tout. Mais en effet, je sais que c'est une vraie question, parce que moi, c'est ça que je recherche. Je cherche des... Moi, je crois beaucoup au bonheur sur le plateau, et je crois beaucoup que les gens qui ont de la joie transmettent la joie. Et je sais que... Mais on est toutes, et même quand on est féministe, mais même... comme toutes les femmes, engluée quand même sur ce truc de... Et je le suis, moi, énormément. Sauf quand je suis sur un plateau, mais sinon, je le suis vraiment. De, même, tu vois, on va me... là, t'aurais mis une caméra, je vais faire attention. Est-ce que c'est... Après, je pense tout le monde, autant les hommes que les femmes, hein, tu vois, mais est-ce que c'est mon bon profil? Est-ce que, genre, je regarde bien? Enfin, tu vois. Mais malheureusement, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des femmes qui l'ont au plateau. Et ça, moi, je pense que c'est... Il faut vraiment essayer de s'en défaire. Mais bon, on est chacune à notre endroit. Mais ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Gollum, ouais, grave.
Tu vois, sur le moment, je me suis dit, oh, wow, en plus, le mec, enfin, si moi, il était à l'autre bout de moi, tu vois, du coup, j'étais, oh, c'est Cyrielle, elle l'entend pendant qu'elle joue, que quelqu'un dit qu'elle ressemble à Gollum, mais en même temps, c'est forcément, elle a moi, dû s'en inspirer, parce que, bon...
c'est mon rêve, on m'a proposé un rôle comme ça, une fois où je devais jouer une femme, j'aurais dû être complètement maquillée avec des faux seins, et j'étais genre une femme, mais genre Gollum, tu vois, une vieille femme, et j'aurais dû tourner, mais ça aurait été mon rêve, mon rêve absolu.
Pourquoi ce genre d'état du corps qui te permet d'exister tu vois, dans une autre dimension, ça te tient à cœur?
Mais j'aurais autant de jouer Gollum que de jouer Cléopâtre. Hein. Faut, vraiment, je souhaite les deux. Hein. Mais parce que Gollum, c'est hyper drôle. Quoi, tu vois. Genre Cléopâtre, c'est stylé. Donc j'aime bien faire des trucs stylés. Oh, j'aimerais bien jouer Phèdre et tout. J'aimerais trop jouer Phèdre. Phèdre, crois-moi, je ferais pas plein de grimaces et tout. Enfin, quoi que, je ne sais pas. Peut-être que si. Mais pourquoi Gollum? Ah, Gollum, putain, c'est... Déjà, tout le monde en parle. C'est quand même le personnage de Seigneur des Anneaux, tu vois. Tout le monde connaît Gollum, tout le monde parle de Gollum. Mais il est trop stylé, quoi. Enfin, faire tout ça avec ton corps, je sais pas, c'est amusant, en fait. J'ai pas d'autres explications. Peut-être qu'il y en a qui trouveront pas ça drôle. Moi, je trouve ça très drôle de faire ça.
Et par exemple, si tu jouais Cléopâtre, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir amener à ce personnage?
Elle serait folle pour moi. Forcément, elle est folle, Cléopâtre. Déjà, pour la meuf, ça roule dans un tapis pour rencontrer César. Possiblement qu'elle va se faire assassiner à la sortie du tapis, enfin, tu vois. Pour passer les gardes, je sais pas si vous connaissez cette histoire. Pour passer les gardes, parce que c'est son frère qui gouvernait à l'époque. Et son frère, il allait faire la guerre avec César, tu vois. Et elle était là, genre, mais jamais on fait la guerre avec César, donc vous allez m'enrouler dans un tapis. Donc elle a passé toute une journée dans un tapis, on l'a transporté dans toute la ville pour l'amener au pied de César en disant, on vous a amené un cadeau, c'est un tapis sublime et tout. Et quand il déroule le tapis, il y a Cléopâtre dedans, tu vois. Donc déjà, la meuf, elle risque de se faire assassiner, parce que tu. Donc les gardes, ils risquent de se dire, mais attends, c'est un mercenaire, enfin, elle va le tuer, tu vois. Donc faut imaginer la folie de la femme, tu vois. Et ça a marché, puisqu'après, elle a enfanté l'enfant de César, enfin, tu vois. Elle est fascinante, mais je sais pas ce que je lui apporterai de plus, je lui apporterai rien de plus à Cléopâtre, moi. Mais c'est vrai qu'elle, ce qui est fascinant chez elle, c'est sa puissance, tu vois. En fait, c'est jouer un rôle d'homme en étant une femme, pour moi, Cléopâtre. C'est jouer César, mais c'est Cléopâtre, tu vois. Pour moi, c'est le même César et Cléopâtre, en fait. Elle était libre, c'était la première femme libre, tu vois. Il y a la rumeur, je sais pas si c'est vrai, mais que, en gros, ses gardes l'auraient sauvée d'un attentat. Elle aurait fait une fellation à tous ses gardes, pour les remercier. Enfin, c'était là, genre... Ah ouais, non, mais c'est quand même incroyable, tu vois, genre... Je sais pas comment dire, tu vois, c'est fou, quoi. La meuf, elle est pharaon, et elle dit... bon, les gars, mettez-vous en ligne, je vais dire. Elle est incroyable. Enfin, je sais pas comment dire, elle a un... Mais je te dis ça, mais alors que je peux autant aimer Phèdre, qui est beaucoup plus rigide, tu vois. Cléopâtre, elle est folle pour moi. Phèdre, elle est beaucoup plus rigide, et je rêverais de jouer Phèdre. Parce que la rigidité, c'est hyper intéressant. Pareil, c'est encore un état de corps. Comment tu joues la rigidité, comment tu joues la fermeté. En fait, ce que j'aimerais, et c'est par quoi on cherche par le collectif OUF, c'est pouvoir interpréter tout ce panel, tu vois, de la folie à la rigidité. Parce que ça, on permet aux hommes. Et aux femmes, ben, on n'a pas on a tellement peu de rôles qui nous le permettent. Il y en a tellement peu qu'on en parle. Ah, mais si, t'as vu, il y a ce rôle-là. Mais oui, il y a ce rôle-là. Ouais, ok, d'accord. Et compare, prends le pourcentage de tous les rôles masculins incroyables et fais la comparaison. Alors, faut interpréter des rôles d'hommes, tu vois. Mais...
En quoi l'influence du récit oral et du conte chanté vient-elle influencer de nouvelles perspectives au jeu théâtral?
c'est quand même assez différent parce que je trouve qu'on peut moins interpréter des choses quand on chante. Enfin, il y a moins... En tant qu'actrice, je vais un peu moins m'amuser, je pense, que quand j'ai un texte. Mais par contre, je pense que c'est beaucoup plus universel. Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'un spectacle avec du chant ne plaise pas qu'un spectacle de théâtre, tu peux te dire « un, le propos ne me plaît pas, deux, la mise en scène ne me plaît pas, trois, je me fais chier. » Alors qu'avec du chant, tu ne peux pas te faire chier. C'est pas possible. Tu peux ne pas aimer tout le spectacle, tu vois, mais en tout cas, tu auras au moins aimé les chants, tu vois. Et ça, c'est déjà incroyable. Donc pour moi, ça permet vraiment le chant. Enfin, c'est pour ça qu'avec Clémentine, on a vraiment eu, et le collectif, on a vraiment eu envie de faire un spectacle sur chant polyphonique. C'est que pour moi, ça peut toucher tout le monde. Au-delà de... Enfin, c'est ce qu'on a vécu, en fait, avec le confinement. Parce qu'il faut savoir que... Donc moi, j'étais à Paris pendant le confinement. Et il y a eu un truc assez fou dans ma rue. Il y avait énormément de choses qui se passaient, artistiques, tous les soirs à 20h. Tous les soirs, il y avait des trucs de fou. Et quand je lisais des poèmes, ça percutait beaucoup moins que quand je chantais. Quand je chantais, c'était « Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Et dès que je lisais un poème, c'était genre « Ouais, bravo ! Bravo !» Et je fais genre « Waouh, okay, attends, c'est fou. Comment ça se fait que le texte ne fasse pas du tout le même effet que le chant ?» Et après ça, du coup, on s'est dit « On va aller chanter pour les hôpitaux et les EHPAD, pour toute la merde qu'ils ont vécue pendant le confinement. » Et pareil, on a vu que le chant, mais c'était universel, quoi. Genre, tout le monde est joyeux, tu vois, avec du chant. Tout le monde. Et donc là, on s'est dit, vas-y, c'est hyper intéressant, ça. Puisque les gens qui vont pas au théâtre, généralement, se font chier au théâtre. On va mettre du chant dans Ignis, on va faire pratiquement que du chant, quoi. Et les gens, en fait, même si t'as pas trop aimé le spectacle, tu peux pas sortir en disant, genre, y a rien qui m'a touché. C'est impossible, parce qu'il y a le chant. Et je pense que c'est ça, du coup, que ça amène, surtout. C'est plus au niveau du public qu'au niveau des actrices, même si c'est trop agréable de chanter et que ça t'enlève beaucoup de pression, puisque tu chantes toujours en chœur. Donc, quand t'as un texte, tu peux avoir peur du blanc, tu peux avoir peur de pas gérer tes trucs. Là, il n'y a plus trop de stress. Enfin, il y a beaucoup moins de stress, parce qu'on est vraiment en chœur.
Pour rester sur l'oralité et la place de la voix dans vos spectacles, on voit dans Sodome ma douce que la narration est portée par 9 d'entre vous. En quoi cette fragmentation de la voix sonne comme un corps collectif ? Et comment s'opère la magie qui les rassemble ?
Voilà, la question hyper dure. J'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est intéressant, ce que tu abordes, c'est qu'en fait, il y a toujours eu du cœur, en fait. Je me dis, non... Depuis le premier spectacle, en fait, il y a du cœur. Puisqu'en effet, c'était un spectacle où il y avait une choralité au niveau du texte. Beaucoup moins philosophiquement, c'est juste qu'on cherchait une... Enfin, l'or... Marion, qui a mis en scène ce spectacle, cherchait une pièce à monter avec 9 femmes, ce qui est hyper dur. Du coup, elle s'est dit « Ah, mais c'est trop bien, Sodome ma douce, c'est un monologue d'une femme. » Du coup, on va le diviser en 9. Je pense que c'était ça, surtout.
Est-ce que chacune des membres du collectif est animée, comme toi, par des pratiques extérieures au théâtre qui influencent directement ou indirectement vos choix artistiques, esthétiques ou d'interprétation ?
Alors dans le collectif, on est toutes multifonctions, vu qu'on est autonome. Alors il y en a qui ont des pratiques choisies. Par exemple, Lucie Gallet qui est là et actrice, normalement elle est costumière. Clémentine qui normalement est scénographe, là elle est actrice et metteur en scène. Là carrément pour elle c'est plutôt le métier d'actrice qui est nouveau. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont leur métier et autre chose, comme par exemple le yoga, comme moi ? Non, après, c'est des choses qui sont venues... par exemple, Inès qui fait la com, je ne sais pas si vous avez vu la com, elle est extraordinaire. Et c'est Inès qui s'occupe de tout, quoi. Donc, elle a développé un talent, mais c'est un talent obligé, quoi. Enfin, c'est que tu n'as pas le choix, c'est pas vraiment choisi, quoi. C'est pas genre « Ah, j'adore faire de la com. Ah, yes, vas-y, je vais faire ça. » Non, c'est qu'on n'a pas le choix.
Ou pas forcément qu'il soit de la même envergure que toi, le yoga. Ça peut être d'autres influences suffisamment fortes pour que ça vienne sur le plateau et dans vos propositions.
Lola, par exemple, qui est la directrice vocale, donc celle qui était blonde platine, elle a toujours adoré le chant et au fur et à mesure, elle est devenue, alors elle n'a jamais fait de formation de chant, elle est devenue notre directrice vocale. Et carrément, c'est elle qui a arrangé l'album. Enfin, tu vois, on allait jusqu'à un niveau très très haut, quoi. J'avais mis en scène, c'est une grande... Mais j'avais organisé une lecture des intégrales de Rimbaud. Et donc moi, je sortais du TNB, et au TNB, le chant, c'était très très important. Et du coup, j'avais légué aux filles un chant, notre premier chant polyphonique, en fait. On avait déjà chanté dans Sodome, mais Sodome, c'était une seule personne qui chantait. Alors qu'à partir de Rimbaud, on a toujours fait des chants polyphoniques. Donc moi, j'avais amené ma passion du TNB de chant. Et il se trouve que Lola, ça a commencé à l'activer de plus en plus en tant que directrice vocale. Et là, elle, c'est devenu... Là, elle a un niveau de chant qui est fou, quoi. C'est vraiment devenu sa deuxième casquette, c'est elle est actrice chanteuse. Et directrice vocale, tu vois, et même arrangeuse. Et le collectif lui a fait développer ça très fort. Et elle le développe maintenant même dans d'autres collectifs qui l'appellent pour donner des cours de chant. Après, en fait, on serait qu'on s'élève toutes, tu vois. Par exemple, Clémentine qui est scénographe, Florie, elle, une autre du collectif, elle est juste actrice, mais elle va être fascinée par la construction. Du coup, elle aide beaucoup Clémentine dans les constructions de décors. Elle devient de plus en plus calée aussi en technique. Après, tu vois, moi, j'ai commencé à faire de la broderie parce que Clémentine en fait aussi. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça. On s'apporte chacune des choses comme ça. Lucie Gaël qui faisait du dessin mais qui avait jamais exploré ce talent avec nous, et puis d'un coup elle nous dit bah moi je peux dessiner la pochette, et bim, elle m'a fait un truc de fou. Donc c'est vrai que voilà, si les filles font d'autres choses et tout se regroupe quand même bien dans le collectif. Ouais.
Et on voulait aussi savoir comment la scène influence vos relations.
Par exemple, là j'ai mis en scène donc Ignis avec Clémentine. Bah là ça nous a énormément rapprochés. Forcément, puisqu'on se connaissait pas tant, on arrivait à travailler ensemble un peu comme ça, un peu par hasard. On se sentait déjà bien artistiquement, mais on se connaissait pas, ça aurait pu très très mal marcher. Puisqu'elle était en technique, moi j'étais actrice, donc on se croisait pas tant que ça. Et bon, il se trouve que ça a été une osmose de travail assez folle. Donc là, on s'est vraiment rencontrés par la mise en scène avec Clémentine. Mais après, en tant qu'actrice, c'est aussi ça la question. C'est quand t'es au plateau avec les gens, qu'est-ce que ça change, c'est ça?
En fait, la question c'est... comment l'écriture d'une pièce porte une forme de militantisme sur certains sujets, est nourrie par le fait d'être un collectif qui se pose ces questions ensemble, et comment le spectacle influence en retour le collectif.
J'ai plutôt l'impression que... J'ai pas l'impression que le spectacle nous influence. Pour le coup. Enfin, la création du spectacle nous influence parce qu'on se pose des questions, mais le spectacle est presque le rendu de nos questions. Par contre, ce que j'espère, c'est que ça vient... interroger le spectateur à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on rend le travail de nos interrogations et de ce qu'on a envie de changer, et là, il est légué avec le spectacle, il est légué au spectateur. Par exemple, je pense à Infini Blanc, qui était la violence de mère à fille. Par exemple, là, elles l'ont joué à Bellac. Je sais que le directeur du théâtre, il est venu avec sa mère et sa grand-mère, et que toute la soirée, ils en ont parlé après. Et ça, pour moi, c'est rendre tout notre questionnement, parce qu'après le spectacle en soi, quand il est là, alors le chemin a été très important pour nous parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Après le projet final, on sait même pas si c'est bien ou pas bien, on a peu de recul sur ce qu'on fait, mais c'est plutôt là le moment où genre on le donne au spectateur, et est-ce que le spectateur ça va faire quelque chose sur lui ou elle, quoi.
Et qu'est-ce qui vous pousse à continuer de pratiquer dans les théâtres, ou au contraire, qu'est-ce qui vous pousse à jouer dans la rue?
On a créé Ignis un peu pour ça au début, hein, pour sortir des théâtres, pour pas jouer dans des théâtres. C'est compliqué, parce que moi déjà j'aime trop les théâtres. J'aime trop ce lieu, je veux pas qu'il meure. Ce que j'aimerais que ça change, c'est plus, mais c'est compliqué, mais je sais même pas comment j'aimerais que ça change. En plus je suis en plein dedans, parce que moi je joue beaucoup dans le théâtre public, et j'adore le théâtre public, et j'ai toujours voulu faire du théâtre public, j'ai jamais voulu faire du privé, donc pour faire comprendre un peu aux gens... Le public, c'est ce qui est subventionné par l'État, et l'État ne regarde jamais la qualité de ton spectacle. Donc pour moi, c'est magnifique. C'est-à-dire que l'artiste, on te donne de l'argent parce qu'on estime que tu es un artiste qui le mérite. Bon, la question du mérite est toujours compliquée, c'est là où ça nous pose toute question. Mais l'État estime que tu le mérites, donc on te donne de l'argent, et tu es libre dans la création. Tu es totalement libre. Tu fais de la merde, un truc bien. Après, bien sûr, ça va se répercuter sur tes prochaines subventions. Mais en tout cas, dans ta création, tu es libre. Pour moi, c'est le paradis sur Terre. Après, t'as le théâtre privé, où t'as des mécènes, où t'as des producteurs, et qui viennent voir ta création, et pour rentrer dans les clous. Par exemple, à partir du moment où tu mets un peu des choses sexuelles, c'est interdit au moins de 12 ans, tu perds 50% de tes recettes. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus en famille. Donc ils viennent voir tes spectacles, et ils disent « Oula, oula, attends, moi j'ai donné de la thune, je veux pas cette scène qui est un peu subversive, sinon tu réduis de 50% ma jauge de spectateurs. » Pour moi, l'art est mort. Et pourtant, il y a des super spectacles en privé. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de questions là-dessus. Des gens qui font de magnifiques théâtres dans les privés. Mais c'est juste que artistiquement, je trouve que l'art, tu ne peux pas exister. Quoi. Genre, si tu as des mecs qui sont derrière toi en te disant bah non, alors là, je perds 50% de ma thune. Bon, voilà. Bon, moi, je n'ai jamais voulu faire du privé. Le problème du public, c'est que vu qu'on te donne de l'argent et que tu fais ce que tu veux, il y a des copinages. Genre, c'est toujours les mêmes qui ont la thune. Presque les programmeurs s'en battent les couilles maintenant de la jeune création. Tu vois, genre, t'invites des programmateurs, personne ne vient. Personne, et pourtant ils sont censés, c'est leur travail de découvrir de nouveaux talents, découvrir ce qui se fait et tout. Ils prennent que ce qui existe déjà et ils continuent à donner de la thune, ce qui fait que le public y vient aussi, tu vois. Donc on a eu vraiment envie de sortir de ce truc du théâtre où c'est un entre-soi, toujours les mêmes viennent au théâtre et j'adore, et trop bien, heureusement qu'ils viennent, mais c'est toujours les instits, c'est toujours les artistes, enfin, on atteint très peu de gens en fait en faisant du théâtre. Et le chant était un premier désir de ça, et notamment chanter dans la rue, tu vois, chanter dans la rue, il y a qui vient, qui passe, le problème de la rue c'est que personne ne paye. Et tout ça vient se poser plein de questions. Et Nice, oui, on l'avait imaginé à jouer dans des forêts et tout, mais pareil, qui nous paye, il faut qu'on vive aussi, quoi. Donc, c'est la question qui est très compliquée, des théâtres ou non des théâtres. La question voilà, du centre et l'argent, et comment on fait pour vivre. Donc, c'est un peu un des deux, je pense. Il faut jouer dans les théâtres et réussir à s'exporter à l'extérieur. Je pense que vraiment, depuis le Covid, vu que les théâtres ne se remplissent plus, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense pas que les gens qui dirigent les théâtres ont envie que ça change. Pourtant, ce serait bien, parce que si on jouait plus dans les rues, s'il y avait plus d'aide pour jouer en extérieur et tout, je pense que ça ferait revivre un peu le théâtre.
Oui, parce qu'il n'y a pas non plus la même proximité, ça apporte quelque chose de totalement différent dans la transmission dont tu parlais.
Ouais, complètement. Le rapport est très très différent quand tu joues très proche des gens, puis les gens n'ont pas les codes. Ça, j'adore, c'est génial. Donc ils peuvent... Bah, si c'est nul, fais gaffe. Hein. Si c'est de la merde, les gens vont te... Ils vont dire que c'est de la merde, les gens qui sont dehors, tu vois. Ça, c'est génial, moi, je trouve ça très bien. C'est un public qui est juste. Et si c'est génial, eh ben, t'auras tous les cris, les applaudissements qu'on n'ose plus faire au théâtre, quoi.
Nous sommes un soir de la Toussaint, entre chien et loup. Imaginez un petit village, peut-être celui de votre enfance. Il y a une brume légère qui caresse votre visage sous le ciel gris sombre. Les lampadaires s'allument dans les petites rues. Pavés humides, terre battue, l'odeur de l'herbe fraîche et d'un château des Vaunarines. Votre regard se prolonge. Tiens, la ruelle de la Recluse. Vous savez, dans chaque village, il y a cette petite ruelle appelée la ruelle de la Recluse, où il y a des siècles et des siècles, les femmes démunies ou déshonorées choisissaient de s'emmurer vivantes afin de prier pour les autres. Alors, ce soir, on va penser une petite seconde à toutes ces femmes qui se sont sacrifiées pour les autres. Un peu plus loin, le petit pont que vous connaissez bien. Le ruisseau avale en de petits cercles concentriques des milliers de gouttelettes tombées du ciel. L'eau est sombre, à peine allée par le silence des lumières électriques. Un frisson parcourt votre nuque. Est-ce le jeu de la pénombre ou quelque chose de plus familier, de plus inévitable? Tendez l'oreille. Vous entendez. Quand l'inaccessible vous frôle, il est temps de toucher la terre, socle des socles. Vous vous accroupissez, peut-être aussi pour vous cacher. Vous tendez les mains vers le pavé humide. Pour vous assurer que tout est à sa place.
Nous sommes les oiseaux de nos rêves. olvido para o estresse passar e que sem ele ferido de segredos passar sem ele as famílias e aurais ficam sem virtudes dos nossos
Donc dernièrement, vous avez produit cet album.
Coproduit, ouais, avec Après Vous.
Coproduit. Et puis toute une trame narrative s'est articulée autour de ces chants, puisque vous avez pas seulement voulu reprendre des chants, mais créer une histoire autour d'eux. D'abord, tu peux peut-être nous introduire le projet et sa structuration.
En effet, donc quand Ignis est arrivé, en fait, c'est que Après Vous nous a proposé directement d'enregistrer un album de nos chants. Et puis on s'est dit, mais on va peut-être pas... peut-être juste faire ça, on va peut-être faire un projet en entier, enfin on va jamais assez trop grand, et on va peut-être faire 10 nouveaux chants. On s'est retrouvé avec 21 tracks, donc on n'a pas fait 10 nouveaux chants, on a fait plus. Et donc au début on s'est dit, bah alors attends, dans quel sens on a procédé? Je crois qu'on a d'abord décidé des chants qui nous plaisaient, on a fait une liste, peut-être 50 chants qui nous plaisaient, et après on a tiré les cartes du tarot pour, on savait qu'on voulait raconter l'histoire d'Ignis. Donc, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adultance, la vieillesse et la mort. Et les filles, elles connaissaient pas du tout le tarot, à part Clémentine et moi, elles connaissaient pas. Donc, on leur a fait tirer à vue, c'est-à-dire qu'elles ont vu les cartes, et on leur a dit, vous mettez les cartes que vous ressentez dans l'endroit de sa vie. Et selon les cartes, on a choisi les chants. On a mis les chants dans certains endroits, qui nous représentaient ce qu'elles avaient tiré, tu vois. Et c'est comme ça que, du coup, on a organisé les chants, et qu'on a mis des textes aussi dans l'album, ça c'était très important pour nous. C'est plus un album qui raconte une histoire, ouais. Voilà. Et donc les chants sont dans des endroits précis.
Vous avez proposé chacune des chants qui résonnaient aussi personnellement. Comment est-ce que vous avez opéré la sélection afin que personne ne soit frustré et que tout le monde se sente représenté?
Alors en effet, on a fait d'abord une écoute qui a duré très longtemps. On a écouté plein de chants et on a tout dit, ah celui-là j'adore. Donc quand il y avait une majorité de j'adore, on le notait. Et puis après, c'est quand on s'est retrouvés avec Clémentine et Lola, du coup, pour choisir les chants selon l'histoire. On avait déjà fait une présélection, et là, on a choisi au plus juste selon l'histoire et selon un équilibre aussi. Il fallait qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas que des chants espagnols ou que des chants russes.
Et le rapport à la langue, enfin aux langues, comment est-il traité? Pourquoi il y en a autant?
C'est une très bonne question. Bah déjà, les chants polyphoniques, c'est dans le monde entier. Et puis c'est toujours ce désir de ne pas être auto-centré sur notre culture à nous. Et puis on pense que le problème d'Ignis, qui est qu'elle est enfermée dans les codes patriarcaux, malheureusement, l'état patriarcal, c'est celui qui a gagné le monde. Quoi. Il n'y a pratiquement plus de société matriarcale ou égalitaire. Donc c'est vrai dans tous les pays du monde. Quoi. Donc c'est aussi ça, ce truc des chants du monde entier qui parlent d'Ignis. Quoi.
Ok, parce que moi j'avais l'impression que c'était majoritairement des chants plutôt latins ou européens.
Alors, beaucoup. Parce qu'il n'y a pas du tout de chants africains, par exemple. Parce qu'on n'en connaissait pas. Enfin, on connaissait pas de chants polyphoniques d'Afrique. D'Asie non plus, on n'en connaissait pas. Enfin, c'est selon nos connaissances. Entre l'Amérique, parce qu'il y a l'Amérique du Nord et du Sud, et toute l'Europe jusqu'à la Russie, quoi. En effet, c'est vrai que l'Asie, malheureusement, on ne connaît pas du tout. Et ni les chants polyphoniques d'Afrique, je ne connais pas non plus. Ah, il y a un chant indien, quand même. Ouais, je me dis, il y a un chant à dire.
Il n'y a donc aucun chant écrit par vous?
Les seuls chants qui sont écrits par nous, c'est les interludes dans l'album.
D'accord.
Et c'est une question qu'on avait posée un peu plus en amont dans cette discussion, mais qui a peut-être mieux sa place maintenant. Qu'est-ce qui, dans ce projet, passe mieux par le chant que par le parler?
Le fait que le chant, c'est universel. Que tu sois de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ça te touche. Tu comprends pas l'histoire du chant. Ça, c'est beau, quoi. Alors que le théâtre, c'était pas d'accord. C'est politique, le théâtre. Enfin, je veux dire, tout est politique, puisque c'est, tout est la société. Mais le théâtre, tu dis des choses. Donc tu peux vraiment faire que les gens ne soient pas d'accord. Impossible de pas être d'accord.
Parce que là, on sent dans le dernier spectacle qu'il y a des messages assez forts qui passent.
Ou les gens ne comprendront pas, mais ils aimeront les chants. Ou ils comprendront, ils n'aimeront pas du tout le message, mais au moins ils auront kiffé les chants. Donc là, c'est toujours ce truc. On peut toucher tout le monde avec les chants, quoi.
Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ?
Venez nous voir.
Alors justement, quelles sont les prochaines dates, s'il y en a ?
Pour l'instant, on ne sait pas trop. Déjà, on va tourner le clip de Cadet l'Oliva. Donc déjà, ça va être notre prochain rendez-vous. Quand il va sortir, ce sera en septembre. Il faudra patienter un petit peu. Donc là, on est un peu en pause jusqu'en septembre.
Ok, donc à suivre.
À suivre, mais abonnez-vous sur nos réseaux. Suivez-nous.
C'était très agréable de venir parler de tout ça avec toi. Les conversations ont pris un tournant plus féministe et sur l'éthique de travail au théâtre. Et c'est très important pour nous parce que cette émission n'a invité que des femmes. C'est la première émission UCLUC dont la programmation donne la totalité de la parole aux femmes.
Trop bien, génial.
Eh bien, merci Cyrielle.
Merci.
Merci Cyrielle.